Moi qui ai appris de Jean Gabin à aimer les femmes, je me trouve maintenant avec la photographie de Margaret Thatcher devant moi. Dans le journal, bien entendu, qu'en bonne citoyenne d'après la Révolution française, j'achète tous les matins. Et je commence à penser que quelque chose est allé de travers durant ces 30 dernières années de démocratie. Jean Gabin ignorait tout cela. Les dames de fer, les femmes policiers, les soldates et les culturistes. Ses yeux bleus, ceux de Jean bien sûr, rêvaient d'une femme qui serait comme un fleuve. Un grand fleuve, languide et vertigineux, s'en allant nourrir la mer de ses eaux limpides. Voilà ce que j'ai appris de lui, et pour moi, la femme a toujours été la mer. Entendons-nous, pas une mer dans un élégant cadre doré pour fanatique du paysage, mais la mer secrète de la vie, aventure magnifique ou désespérée, cercueil et berceau, sibylle muette et sur-réponse, espace immense où mesurer notre courage d'individualistes endurcis, à nous, voleurs du riche et bienfaiteurs du pauvre, d'accord sur une phrase brève et précise, toujours en dehors de tous les pouvoirs établis. Seul, mais avec l'orgueil de connaître la rectitude propre aux outsiders. Seul, déambulant d'un pas court et énergique, éclatant de courage altier, j'adaptais mes petits pieds à la démarche pleine d'autosuffisance virile de Jean Gabin, en fixant les yeux ténébreux de ma casbah de lave et la métamorphosant instantanément en l'enchevêtrement d'une resplendissante clarté de sa casbah à lui, l'œil attentif au mouchard, qui toujours parmi tant de visages sûrs et souriants pouvait se cacher, ou surgir à chaque recoin plus sombre, à chaque basso un peu plus ouvert que les autres. Mais l'attention permanente au danger, devenue désormais pour moi, depuis que j'allais au cinéma Mirone, une seconde nature, ne m'empêcha jamais de rêver à la femme de ma vie, qu'un jour je rencontrerais, dans des circonstances pleines de magie. Elle, fragile, réservée, muette et mystérieuse, peut-être un peu ambiguë, bien sûr, mais pure, fondamentalement pure et transcendante. Poursuivie par une brute qui l'embobinerait avec des mirages de vie luxueuse, de villes étincelantes, de colliers et de bracelets de perles, ou qui lui ferait un chantage implacable pour quelque faute ancienne commise par son père ou sa mère ou son frère, innocente mais née pour expier. Cela seulement parce que la nature destin l'avait créée trop belle, trop sensible et parfaite pour la canaille commune qui, envieuse, voulait la posséder et la détruire. Ce devait être ça. Et satisfaite de ma découverte, j'accélérai le pas en me mettant à siffler doucement. Arrêtons avec le destin, le diable, les madones. Voilà la faute de mon aimé. Être trop belle, pure, et en conséquence, un appel involontaire à la mocheté et à la cruauté minable de la masse. Il suffisait de détacher les yeux de l'écran où, blanche et ouatée, dans le halo de lumière du regard de Jean, elle s'efforçait de ne pas pleurer et de ne pas dire le nom de son tortionnaire, sachant le pouvoir de celui-ci, désirant que Jean ne court pas de risque pour la défendre. Il suffisait de détacher le regard, disais-je, de ses yeux tristes, à peine voilés de larmes retenues, et d'observer le parterre, pour comprendre que tous ces laiderons, mâles et femelles, cachaient sous leur fausse admiration la haine pour la perfection de ce visage qui les humiliait. De fait, Conchetta, cette bigote difforme, avait osé murmurer entre deux scènes à sa mère, crétine comme elle, « Celle-là, je la sens pas. Celle-là, elle va le faire trucider en continuant comme ça. » Concluant, « Elle me plaît pas. C'est une sainte nitouche. » Bien sûr, aux paroles de cette bigleuse de Conchetta, je m'étais retourné, d'un seul mouvement, et avec un regard de feu, je lui avais craché à la figure un « Tais-toi, idiote, ne dérange pas la projection !» qui l'avait fait taire, bien que frémissante de la haine médiocre des lâches. Et plus tard, en sortant, quand mère et fille avaient surgi menaçantes devant moi, je m'étais ouvert le passage d'une bourrade, sans trembler, prête même à les rosser méchamment. C'est sûr, personne ne pouvait, en ma présence, rire ou mal parler d'elle. Mais ce sont là des bricoles. Je ne vois pas pourquoi j'en parle. Je sentais monter en moi une bien autre fureur, en laissant ces imbéciles hurlantes et furieuses. La mère, dite la cagna, la chienne, était presque tombée sous ma bourrade. La fille se serrait un bras bien, bien fort. J'aurais fait bien d'autres choses pour la protéger, elle, mon miracle de la nature. J'aurais défié des foules hurlantes de Conchetta, des ruelles entières de foules, de policiers et de fascistes, de brutes déguisées en messieurs, pour obtenir un regard, une caresse fugace, à la limite, une nuit d'amour, dans un petit hôtel miséreux, mais propre, là, au fond, au bout des arcades, dans ce coin reculé où le port finissait et où commençait la mer ouverte, libre, insondable. Pour goûter à cette brève nuit d'amour, je serais peut-être morte. Mais ensuite, on renaissait à d'autres aventures. Derrière le fin grillage suspendu en haut sur le mur de lave, barré par la pauvre bande de papier du cinéma Mirone, les grandes photographies délavées par le soleil annonçaient déjà, samedi 21, le quai des brumes.